Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes lundi 19 janvier 2015. Bienvenue à cette émission, une émission qui est consacrée aujourd'hui à la situation des réfugiés maliens dans le nord du Mali au milieu des affrontements entre groupes armés. Nous allons donc voir ensemble avec nos invités, comme il est de coutume, trois axes dans cette émission. D'abord, la situation, le point sur la situation des populations civiles au milieu de ces affrontements avec le retour des réfugiés également qui est compromis, également les risques d'enlisement de cette situation de tension dans les régions du Nord. Alors pour en parler, nous aurons comme invité Ousmane Cornio, expert en conflit, et également Mamadou Diouara, qui est sociologue et secrétaire général du mouvement Sauvons le Mali. Nous aurons au téléphone Alatek Aga Ouaha, membre du mouvement d'autodéfense Gatia, et également par téléphone, nous aurons quelqu'un de Ouagadougou pour nous faire le point sur la situation des réfugiés maliens dans le pays. Ibrahim Talba de Search for Common Ground. Je suis Famoussa Sidibé, Gagné Kanté est à la technique et Salim Douara est à la régie vidéo.
Studio Tamani.
La partie septentrionale du Mali a été secouée ces dernières semaines par des actes de violence et d'affrontements entre groupes armés. Le gouvernement malien et les groupes armés du Nord s'apprêtent donc à se rencontrer en février à Alger pour la suite des pourparlers du pays dans le pays. Et ce cadre de négociation est-il compromis aujourd'hui? Nous allons le voir avec nos invités. Et nous avons également parlé beaucoup, vous avez beaucoup entendu, ces affrontements qui se sont passés ces dernières semaines dans la région de Gao et de Tombouctou, précisément à Bamba, Ber et récemment à Tabankort. Pour la situation, nous allons débattre de tout cela avec nos invités. Alors tout d'abord avec vous Ousmane Cornio, pendant ce temps, les populations restent terrées chez elles.
Non, malgré elles-mêmes, elles sont obligées de rester pour se prémunir, pour se protéger de balles perdues, c'est ce qu'on peut dire. Dans la mesure où je suppose que tous ceux qui sont dans les alentours sont des fous. Et quand on est dans un milieu de fous, il faut vraiment se protéger. Et parce qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer. Ces groupes armés et ces populations qui sont dans leurs alentours, ils sont presque la même communauté. Qui fait que je me pose la question si c'est vraiment ce sont les groupes armés qui attaquent. Ça doit être sûrement comme c'est des narcotrafiquants, des terroristes, les gens du Moujao, qui n'ont aucun intérêt à ce que la situation soit réglée. Parce que c'est quand même inconcevable qu'on soit sur une table de négociation à Alger et pendant ce temps, vous voyez des gens sur le terrain pour aller tirer. Non, c'est pas réaliste. Je ne pense pas que ce soit ces groupes qui négocient à Alger, qui tirent, mais c'est des gens qui n'ont pas intérêt à ce que Alger réussisse.
D'accord. Alors, Mamadou Diouara, vous êtes sociologue et également secrétaire général du mouvement. Souvent, le Mali, ces populations du Nord sont-elles abandonnées aujourd'hui?
Bon, abandonner, c'est un peu dur à dire parce que nous savons tous les efforts que l'État a fait pour pouvoir retourner sur le terrain. Nous savons aussi dans quelles circonstances et comment les zones dans lesquelles nous ne sommes pas présents, nous avons été amenés à les quitter. Bon, l'État est en train de fournir des efforts, mais il a du mal à être présent. Pendant ce temps, comme on aurait pu le craindre, c'est un no man's land que le Nord est devenu. La grande question, c'est tous ceux qui sont chargés de faire maintenir l'ordre en l'absence de l'armée malienne, comment vont-ils s'y prendre? Parce qu'on ne peut pas laisser les groupes armés continuer à s'affronter comme ça et mettre permanemment la vie des civils en danger. Pendant que des efforts importants sont fournis pour permettre le retour des réfugiés, et comme je l'avais dit lors de l'émission qu'on a faite ici, il y a d'autres questions. Parce qu'il y a eu un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu du 23 mai entre le gouvernement malien et les groupes armés. Mais il n'y a pas eu de cessez-le-feu entre les différents groupes armés. C'est là où la question se pose. Et malheureusement, ça nous amène à la remise en cause de ce cessez-le-feu entre le gouvernement malien et les groupes armés, alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
Il s'agit de toute autre chose. Alors, Alateg Ag Ouahoua doit normalement être au téléphone. Il est du Gatia. Bonjour, monsieur. Allô? Alateg Ag Ouahoua, vous m'entendez? Alors, nous allons retrouver Alateg Ag Ouahoua, membre du Gatia au téléphone, qui intervient depuis le Nord. Alors, les populations peuvent-elles aujourd'hui se faire à l'idée que ces groupes d'autodéfense se battent en leur nom, Ousmane Cornu?
Non, moi je crois que les groupes d'autodéfense, comme se disent, les milices ne représentent qu'elles-mêmes. Elles ne défendent pas la communauté. C'est vrai que ce qu'elles disent, elles disent que à l'absence de l'État, chaque communauté organise des groupes d'autodéfense pour défendre la communauté. Mais moi, je ne pense pas. Je pense que ce sont des jeunes, ce sont des groupes qui, voyant venir l'aboutissement de la négociation et se disant que au Mali, on a l'habitude de donner des primes à ceux qui se révoltent, à ceux qui prennent les armes. Donc, le jour qu'il y aura la distribution des primes pour qu'ils soient pris en compte. J'ai l'impression pour moi que, en tout cas, c'est ça qui les motive et non pas les populations.
Alors, on me fait signe que nous avons au téléphone Ibrahim Talba de Search for Common Ground. Monsieur Talba, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous intervenez depuis le Burkina, si je ne m'abuse.
Du
Niger, excusez-moi. Alors, quelle est la situation actuelle des réfugiés maliens dans ce pays?
Search for Common Ground, à travers un projet d'assistance aux réfugiés maliens dans le domaine de l'information, de la communication et de la situation, avait travaillé dans les 6 camps des réfugiés maliens. Donc, il y a des camps, il y a des zones d'accueil, il y a des guichets. C'est toujours les appeler comme étant des camps. Mais je suis coordinateur d'un projet qui avait intervenu dans ces camps. Et je vous dis que les réfugiés maliens au Niger sont dans des situations normales. Sous l'autorité de l'État et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avec l'assistance du PNG humanitaire. C'est un type de assistance qu'un réfugié bénéficie dans un pays russe et ils sont dans des conditions normales.
Alors, on le sait, les moyens de télécommunication existent aujourd'hui pour que chacun se renseigne de ce qui se passe sur le terrain. Mais est-ce que, de façon concrète, ces réfugiés sont informés en temps réel de ce qui se passe aujourd'hui dans le nord du Mali?
Pardon?
Est-ce que, de façon concrète, ces réfugiés maliens-là sont informés en temps réel de ce qui se passe, de la situation actuelle sur le terrain?
Oui, en fait, notre projet, c'était un projet pilote de 9 mois. Nous avons intervenu dans les camps, dans les différents camps. Nous avons fini le projet depuis le mois de septembre passé. Pour le moment, je ne dirais pas qu'ils sont régulièrement informés, mais dans le temps, quand nous intervenons, nous sommes en relation ou en partenariat avec des radios maliennes, notamment la radio Adrar et la radio Ania de Gao et de Menaka, avec lesquels nous avons eu à produire des messages sur la situation sécuritaire, sur la promotion de la paix que nous amenons, diffusons dans les cas et du coup, nous produisons pour amener au Mali. Pour le moment, je ne dirais pas avec certitude qu'ils sont informés, mais quand nous étions encore avec ces réfugiés, nous avons l'information nécessaire par rapport à la situation du Mali.
Alors, est-ce que vous pensez que les affrontements qui sévissent actuellement dans le nord du Mali compromettent leur retour dans le pays?
Oui, je dis oui parce que ces réfugiés-là qui sont installés de tout temps quand nous travaillons avec eux, quand nous avions conduit l'évaluation finale, ils nous ont tout le temps confirmé que lorsque le Mali retrouvera leur situation de paix, la situation de sécurité, ils sont prêts à retourner. Mais dès que la situation est à l'insécurité persiste, l'État et les mouvements armés ne sont pas encore parvenus à signer un accord pour que les Nord-Maliens retrouvent la paix, il serait très difficile que ces réfugiés retournent. Et même le ACR et les organisations humanitaires qui les accompagnent, et même l'État du Niger, il est prêt à les accompagner pour retourner, il ne saurait accepter d'envoyer et de faire retourner ces réfugiés-là dans une zone où encore la sécurité n'est pas garantie.
D'accord. Alors, Monsieur Talba, merci de toujours rester avec nous et nous vous remercions pour votre promptitude car c'est cet après-midi seulement que nous avons pris contact avec vous et vous avez eu la bienveillance de participer à cette émission. Merci beaucoup et restez avec nous. Nous allons vous retrouver au cours de ce débat. Alors, ces attaques ne tuent-elles pas le peu d'activité économique qu'il y a aujourd'hui dans les différentes régions du Nord, Mamadou Diawara?
Merci beaucoup. Permettez-moi. C'est évident que ces attaques tuent l'activité économique. Ça met extrêmement en danger la faible activité économique qui existait encore au Nord. Mais je voudrais quand même réagir à ce que
vous êtes très sensible à la situation des réfugiés, j'imagine.
Oui, à la situation des réfugiés et à la situation des autodéfenses. Je vous informe que je suis dans le mouvement Sauvons le Mali en tant que président du mouvement d'autodéfense BBH, Bouyam Bahawi. Donc, je voudrais quand même réagir, avec votre permission, pour dire que les mouvements d'autodéfense, contrairement à ce que les gens pensent, agissent effectivement au nom des communautés. Je donne des exemples très, très précis. Quand on prend Gatia, tout le monde sait que c'est la communauté des Imrades, essentiellement. Quand on prend MAA, c'est les Arabes. Aujourd'hui, la communauté arabe est tranchée en deux, comme elle l'était du temps de l'occupation du Nord. Une partie qui s'est prononcée en faveur du Mali, une autre qui s'est prononcée en faveur de la Zawad. C'est une réalité de la sécession. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces deux parties, effectivement, sont représentées de part et d'autre. Et chaque groupe est là pour protéger. Et pour protéger vraiment les membres de sa communauté. De même, quand on va prendre le mouvement Gandaizo, le mouvement Gandakoy, BBH, FLN, ainsi de suite, ce sont des mouvements qui sont nés dans le but de défendre et de protéger leur communauté. Je rappelle que Diallo est décédé dans le combat en défendant le territoire national comme il l'a toujours fait. Il n'est pas le seul, ils sont beaucoup d'autres qui sont tombés sur le champ de l'honneur. Et ces jeunes se sont mobilisés. Et je répète, je le dis, c'est l'État malien qui a laissé les mouvements d'autodéfense pour compte. C'est l'État malien qui s'en est débarrassé. Pourtant, ce même État les a logés à Sévaré pendant toute la durée. Les a mis sous sa selle. Le général Didié Dako, alors à l'époque colonel-major, les avait sous sa main. Mais au moment où le dénouement arrive, où on a des hommes sous la main pour aller faire le combat, on les a mis à retrait. Pourtant, on se souvient que quand la débâcle a commencé à Kona, ce sont ces mouvements d'autodéfense qui ont livré des volontaires pour permettre à l'armée de riposter immédiatement. Donc, il faudrait quand même qu'on comprenne que ces gens qui ont tout abandonné pour dire qu'ils vont se battre afin de défendre le Mali en un moment où l'armée momentanément n'existait plus, sont des gens auxquels on doit la reconnaissance nationale. Alors, c'est important.
Aujourd'hui, c'est deux clans qui s'affrontent, on peut le dire comme ça, des Imgad et les Ifogas. Aujourd'hui, Ousmane Cornio, je vous pose cette question et nous allons en pause. Vous allez réfléchir sur cette question. Est-ce que finalement, ce problème d'ego qui existe aujourd'hui entre ces différentes communautés, on peut venir à bout de cette situation d'ego? Je vous laisse réfléchir et nous allons en pause.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte Twitter, mais également notre site web www.studiotamani.org. Alors nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir sur la situation des populations civiles sur au milieu de ces affrontements qui sévissent actuellement dans le nord du Mali, à quelques jours seulement de l'ouverture annoncée des pourparlers, de la suite des pourparlers entre le gouvernement malien et le groupe armé à Alger. Nous sommes avec trois invités, un au téléphone francophone, Ibrahim Talba, de Search for Common Ground. Je suis pas très fort en anglais, mais j'espère que je prononce bien le mot. Et Ousmane Cornio est également avec nous, expert des questions de sécurité dans le Sahel. Nous avons également Mamadou Diouara, sociologue, secrétaire général du mouvement Sauvons le Mali. Et nous sommes à la deuxième partie de cette émission, deuxième partie aujourd'hui qui est consacrée aux tensions, toujours aux tensions dans le Nord. Favorise-t-elle le retour des réfugiés? Nous allons amplement débattre de la situation des réfugiés et du programme de leur retour dans le pays, les réfugiés du Burkina, mais aussi du Niger et de la Mauritanie. Alors, cette question que je vous ai posée, Ousmane Cornio, avant d'aller en pause, est-ce que ce problème d'ego qui existe aujourd'hui entre les différentes communautés Touareg du Nord, on peut venir à bout de cette situation pour qu'il y ait enfin le retour de la paix dans le Nord?
Oui, moi je crois que c'est la pire des situations qui peut arriver au Mali, que de renforcer des groupes d'autodéfense se réclamant de communautés, c'est-à-dire développer le communautarisme. Le développement du communautarisme, c'est le développement à la base et prochainement d'une rébellion ou d'une guerre civile. Pour peu que nous échions à Alger, c'est que chaque communauté se retourne vers son groupe d'autodéfense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons les communautés qui vont s'affronter. Ce n'est plus les groupes qui vont s'affronter, mais ce sont les communautés qui vont s'affronter. Et c'est ça qu'on appelle la guerre civile. Que Dieu nous en garde. Qui fait que, moi je crois que la pire des choses qui peut arriver, et le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de faire en telle sorte que l'armée reprenne la main.
Sur tous ces groupes.
Permettez-moi juste ce point on avant qu'on
laisse Cornio terminer sa réflexion. On va revenir.
Juste un élément d'information.
On va revenir. Laissons-le terminer sur
que
sa
l'armée
réflexion.
L'armée reprenne la main. Et je crois que l'armée l'a compris. Même quand Diouara, je respecte son point de vue, a parlé de Kouana. Je suis le président de la communauté des ressortissants de Kouana à Bamako. Donc je connais bien cette citation. Je sais bien que ces groupes d'autodéfense ont contribué ce jour-là à libérer Kouana. Mais pour moi, je ne l'approuve pas. Pour moi, l'armée doit assumer son rôle et sa mission. Ce n'est pas à des communautés, à des jeunes qui n'ont pas été formés, qui sont des jeunes à qui, pour moi, qu'on envoie à la boucherie. Si l'armée n'existait pas, qu'on cherche des forces armées partenaires pour nous aider, mais pas envoyer des jeunes qui se disent, bon, nous sommes des groupes d'autodéfense, nous on va supplier à l'insuffisance ou à la défense de l'armée. Je crois que c'est la pire des choses qui peut arriver à un pays qui prépare sa défense, parce qu'elle mine encore davantage la situation.
La sécurité. Quand la France a été occupée par l'Allemagne, c'est la résistance qui a sauvé la France. C'est des citoyens français, civils, qui se sont organisés pour saboter l'occupation.
En plus des alliés.
En plus des alliés, bien évidemment. Comme le Mali, en plus des alliés, des citoyens patriotes se sont levés parce qu'il n'y avait plus d'armée. Vous savez, moi, j'ai vu ma famille entière être obligée de se déplacer parce qu'elle a été abandonnée par notre armée sur le territoire face à un ennemi qui pratiquait viol, tout ce que vous savez. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Dans de telles situations où d'abord l'État n'existait plus. Souvenez-vous 2012, souvenez-vous le 31 mars 2012 et les deux jours qui ont suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel drame les populations ont vécu? Où était l'armée? Où était l'État? Où étaient tous ceux qui nous représentent? Pendant ce temps où l'espoir était l'espoir avait disparu, l'État n'existait plus, il n'y avait plus de recours. Il fallait quelqu'un pour se lever. Ces populations se sont levées. Qu'est-ce que je veux dire? L'État malien n'avait qu'à prendre ces jeunes volontaires qui étaient maliens, qui ne réclamaient que le Mali, qui ne défendaient que la patrie malienne. Il n'avait qu'à les prendre dans l'armée parce qu'ils se sont formés pendant 6 mois et plus, pendant 2 ans. Ils ont fait la formation militaire. Ils sont aptes au combat. Ils l'ont prouvé à Kouana et ailleurs. Ces jeunes qui se sont battus pour la patrie, qui se sont montrés patriotes, méritaient d'être pris comme des soldats. Il n'y avait pas à avoir de mouvement d'autodéfense. Il n'y avait simplement à partir de Sévaré qu'à verser ces hommes braves dans l'armée pour aller faire une guerre au nom d'une armée républicaine. Mais quand l'État malien abandonne ses fils patriotes et se tourne vers les apatrides, c'est ce genre de scénario qui arrive. Et quand l'État n'est pas capable de protéger les communautés, les communautés se protégeront. Je ne suis pas partisan de la guerre, je me bats pour la paix, pour la réconciliation. Aujourd'hui, dans le mouvement Sauvons le Mali, nous nous battons pour rétablir le dialogue entre les communautés. Mais pour autant, il ne faut pas oublier l'objectivité des actes qui ont été posés et la justesse des décisions qui ont été prises par des jeunes patriotes qui ont tout le mérite et vers lesquels la nation doit reconnaissance.
Alors nous allons parler de cette question de reconnaissance en plus en profondeur dans ce débat. Et je rappelle que l'État malien a refusé, décliné l'offre de participer à cette émission. Alors je me tourne vers Ibrahim Talba de Search for Common Ground. Alors Ibrahim Talba, j'imagine que vous êtes plus neutre par rapport à cette situation que le Mali vit aujourd'hui. Mais est-ce que dans les camps, cette situation d'ego dont nous parlons existe entre les communautés maliennes dans les camps de réfugiés du Niger?
Pardon? Allô? Je n'ai pas bien entendu la question.
Alors, Ibrahim Talba, nous discutons de cette situation d'ego entre différentes communautés du Nord aujourd'hui. La plus visible, c'est cette situation entre communautés Imgad et Ifogas. Est-ce que cette situation existe au sein du camp du Niger?
La situation au Mali est suivie de au niveau des camps de réfugiés maliens au Niger, que ce soit au niveau du guichet unique ou dans les zones d'accueil, la moindre situation liée à une insécurité est suivie avec attention au niveau, soit au niveau des intervenants et au niveau même des réfugiés au niveau des camps. Là, parce qu'il y en a beaucoup de réfugiés qui ont un moment décidé de retourner. Mais suite à des situations vraiment d'insécurité momentanées qui peuvent arriver au niveau du Nord Mali, d'insécurité planée au niveau de ces réfugiés qui voudraient retourner.
Alors aujourd'hui, différentes communautés du Nord vivent ensemble dans ce camp. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des tensions entre ces différentes communautés, Ibrahim?
Non, au niveau du camp, il n'y a pas de tension. Les tensions, il y a, on peut dire que c'est des tensions liées à une position pacifique au niveau de certains camps. Mais ce qui prévalait aujourd'hui dans le Nord Mali, c'est des tensions au niveau des camps de réfugiés. C'est des conflits liés souvent à la coalition pacifique entre les différents groupes en présence au niveau des camps. Aux questions d'accès à l'eau, aux questions d'accès à l'assistance humanitaire. C'est des questions que nous, grâce à travers notre intervention, nous avons aidé à se montrer au niveau de ces camps de réfugiés. Sinon, cette situation qui prévalait dans le Nord, n'est pas au niveau des camps de réfugiés.
Merci beaucoup Ibrahim Talba. Je rappelle que vous êtes de Search for Common Ground. Alors, merci beaucoup et nous allons revenir vers vous au cours de cette émission. Alors, Ousmane Cornio, vous êtes expert en sécurité, expert du Sahel. Vous vouliez réagir au propos de Mamadou Diouara, tout à l'heure, qui parlait sur la situation des milices.
Oui, effectivement. Ce que je disais, il a pris l'exemple de la France. Et la France, pour se libérer, n'a pas constitué de groupes d'autodéfense. Il y a eu des engagements volontaires. Et je comprendrai, je l'approuverai, que des jeunes volontaires, quelle que soit la région, que ce soit du sud ou du nord, des jeunes s'engagent volontairement, se mobilisent pour aider à défendre la patrie.
C'est ce qui s'est passé?
Non. C'est différent
des groupes d'autodéfense. C'est différent.
C'est différent des groupes d'autodéfense.
Désolé, non.
Parce que quand on dit un groupe d'autodéfense, ça veut dire que vous prenez une communauté et vous dites que vous relevez de cette communauté.
On n'a pas dit groupe d'autodéfense ethnique, on a dit groupe d'autodéfense.
Diouara, on laisse Cornio terminer.
Quand on dit les MAA, on a ajouté les A, c'est arabe. Soyez bien. Oui. Vous venez de dire que le Gatia, c'est les Imgad.
Les Imgad et Ali.
Donc, ça veut dire qu'ils se réclament de défendre
une communauté.
Oui, non, c'est le cas de deux groupes d'autodéfense parmi plusieurs autres.
Malheureusement, ce sont des exemples que vous avez donnés.
Non, on a parlé d'eux parce que c'est eux qui font partie des affrontements derniers qui ont eu lieu. Par contre, les autres mouvements, quand vous prenez Gandakouy, C'est plusieurs ethnies. Mais les Il y a des Bambara,
les Ganakoui, c'est les sédentaires.
Il y a des trucs ainsi
les Ganakoui, se disent les sédentaires.
Quand on parle de BBH, par exemple, nous avons la majorité des combattants de BBH qui sont du sud du Mali. De différentes régions, toutes ethnies confondues.
Donc, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez aux autorités maliennes ?
Ce que je reproche aux autorités maliennes, c'est de n'avoir pas entendu ce cri de cœur de la jeunesse malienne qui était prête à donner sa vie et qui est encore prête à donner sa vie pour défendre simplement le drapeau national.
Quand vous dites ces jeunes,
je parle de ces milliers de jeunes qui se sont mobilisés et qui étaient partis dans les camps de formation
qui constituent aujourd'hui les milices.
Oui, qui sont les combattants des mouvements d'autodéfense.
Alors, Ousmane Cornu. Donc je suis d'accord que le
mouvement Imrad était une milice, Je suis d'accord que MAA est une milice parce que ce sont des mouvements purement axés sur l'ethnie. Et ça, je suis convaincu que ce n'est pas une bonne solution. Mais encore une fois, c'est parce que les autorités n'ont pas été capables de récupérer ceux qui étaient prêts à se défendre pour défendre la nation dans l'armée régulière.
D'accord. Sur ce point de vue, compris, Ousmane Cornio, que vont devenir ces milices après cet accord de paix qui sera signé à Alger?
Oui, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Ces milices, ils sont aux aguets pour dire bon, écoutez, lorsque la décision serait prise à l'issue de l'accord d'Alger de récompenser. Et ceux qui ont pris les armes, bon, ils vont aussi réclamer leur dû. Je crois que c'est ça qui est la situation la plus grave. Bon, de toute façon, c'est un antécédent. Mmh. On a vu en 91, on a distribué des postes à des gens qui, m'excusez du terme, hein, qui n'en valaient vraiment pas, ça n'en valait vraiment pas la peine. Des gens qui sont devenus des officiers sans avoir fait des
cours la moindre formation.
Des gens qui sont devenus des responsables de service sans avoir la aucune qualification, aucune compétence.
Mmh. Mais écoutez, donc,
voilà, au nom de la paix, on l'a accepté. Et j'ai l'impression aussi, quand on lit aujourd'hui le projet, qu'il y a des éléments comme ça qui se profilent. Et ça, et puis il faut reconnaître aussi l'erreur a été commise la dernière fois de n'avoir intégré seulement que les groupes rebelles Touareg, mais c'est d'utiliser les termes. Alors que de l'autre côté, il y avait aussi le Gandakoué, il y avait le Gandaïzo et tout ça. Donc j'ai l'impression que c'est une leçon qui a été tirée de tout ceci pour dire, bon, écoutez, si on doit, à l'issue des accords d'Alger, essayer, récompenser ou essayer de démobiliser les jeunes, démobilisons tous ceux qui ont pris les armes. Que ce soit des groupes armés, que ce soit des milices, que ce soit des groupes d'autodéfense. Et je crois que ça, c'est une situation à gérer. Après les accords d'Alger.
C'est une situation à gérer, si vous permettez, juste pour enrichir ce qu'il dit. Hein? C'est une situation à gérer. Effectivement, aujourd'hui, on a des milliers de jeunes qui sont partis dans le métier des armes, qui ont appris à manier les armes, qui ont appris à faire le combat. Ces jeunes ne peuvent pas être laissés comme ça dans la rue, pour compte. Ça a été fait parce qu'il y avait un vide. Aujourd'hui, la communauté internationale est là. On doit prendre les mesures. En parlant en tant que président du mouvement d'autodéfense, moi j'ai 580 personnes qui ont fait une formation militaire pendant 6 mois et demi.
Ils sont où maintenant?
Ils sont là, ils sont dans la ville, ils sont ici, ils sont présents. Ils sont sur le terrain, ils sont à Bamako, ils sont à Gao, ainsi de suite. Ces jeunes qui ont été formés et qui étaient prêts à mourir pour la patrie. Je pense que le capitaine Amadou Aya Sanogo, s'il pouvait parler ici, allait le témoigner parce qu'il a été attaqué le camp et les arrêter. Il a vu comment ces hommes étaient.
Se sont défendus.
Comment ils étaient. Mmh. Okay? Alors, donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il est normal que nous nous préoccupions du sort de ces hommes. Parce que ces hommes ont donné leur vie au Mali et ils ont confié leur vie à nous. Responsables. Nous ne pouvons pas les abandonner.
Ce point de vue est compris. Alors, Ousmane Cornio, j'ai posé une question tout à l'heure à Mamadou Diouara. Nous n'avons pas eu le temps de vous la poser. Est-ce que ces tensions ne tuent pas le peu d'activités économiques qu'il y a aujourd'hui dans les régions du Nord?
Bon, je crois que ça tue les activités productives. Parce que moi, je viens de faire 4 mois au Nord et j'ai été surpris de voir que l'économie à Gao, dans la ville de Gao, est plus florissante qu'avant 2012. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de douane, il n'y a pas d'impôt. Donc ça veut dire que tout ce qui est activité commerciale et qui peut être alimenté par le trafic est aujourd'hui florissant. Et maintenant, ce sont les activités productives, l'élevage, l'agriculture, la pêche, qui ne fonctionnent plus. Donc, vous savez que dans chaque situation, il y a certains, chacun tire
son profit.
Hein. Son profit. Donc, les commerçants, vraiment, ils tirent bien leur profit de cette situation. Absolument. Alors que les éleveurs, les agriculteurs...
Et les forains aujourd'hui.
Et les forains aussi, c'est là.
Oui, mais il y a un élément aussi pour ajouter toujours à ce que Cornéo vient de dire, qui est totalement cohérent, c'est que actuellement, il faut dire que la ville de Gao ne connaît pas véritablement cette instabilité. Et avec l'ouverture sur le Niger, l'activité économique est vraiment florissante. Par contre, quand on va un peu en haut, dans les zones où il y a des combats, il n'y a absolument aucune activité économique. Aujourd'hui, par exemple, la ville de Kidal ne vit pas l'activité économique du tout.
À cause
de même que les autres villes environnantes. Et c'est des villes fantômes.
Y a-t-il aujourd'hui des risques d'enlisement de cette situation? Nous allons en parler juste après 2 secondes de pause.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Merci infiniment de choisir Studio Tamani et ses 20 stations partenaires qui vont bientôt passer à 60. Alors nous sommes avec ce sujet, la situation des populations civiles au milieu des affrontements dans le nord du Mali. Aujourd'hui, Tabankort fait partie de ces zones-là et qui est victime de l'affrontement entre deux groupes armés, Gatia et Allié, et les groupes du MNLA et ses alliés. Alors nous sommes en train de parler de cette situation, de la situation des réfugiés. Également dans cette émission, nous avons 2 invités, Ousmane Cornio, expert des questions de sécurité dans le Sahel, Mamadou Diouara, qui est sociologue et également secrétaire général du mouvement Sauvons le Mali, si c'est bien ça. Voilà, nous sommes à cette troisième partie qui parle des risques d'enlisement de la situation insécuritaire dans les régions du nord du Mali. Alors les tensions vont-elles baisser ou perdurer, Ousmane Cornio?
Je crois que les tensions vont perdurer tant qu'on n'aura pas trouvé un accord à Alger et qui aurait déterminé et précisé la conduite à tenir, aussi bien par l'État que par le groupe. Mais chaque groupe essaie de se faire prévaloir, se faire entendre, et la situation va perdurer. Malheureusement, c'est les populations qui vont payer le prix, qui vont continuer à souffrir.
Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec Cornéo, la situation risque de perdurer. Mais je vais ajouter d'autres éléments. Je pense que aujourd'hui, il y a une question importante que personne n'ose évoquer, pourtant qui est importante. L'acteur principal de l'instabilité de la région n'est pas dans le processus de négociation.
C'est qui?
Je parle de Yada Gali. Tout le monde sait que la force militaire de frappe sur le terrain est détenue par cet homme. Si Iyad décide aujourd'hui que cette zone-là soit balayée de tous ses groupes, elle le sera. Mais Iyad est mis de côté.
Mais Iyad est aujourd'hui inscrit sur la liste des terroristes aux États-Unis.
Mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord que les États-Unis l'ont inscrit sur la liste. Mais c'est pourquoi je dis qu'on sait que le HCUA n'est rien d'autre qu'en sardine. Ce n'est pas un mystère pour quelqu'un. On sait que le MNLA contient des hommes en sardine. Ce n'est pas un mystère.
Comment comprendre cela aujourd'hui aux alliés du Mali?
Je pense que les alliés du Mali le savent. D'ailleurs, recours a été fait à Iyad pour des libérations d'otages. Il n'y a pas bien longtemps.
Contre rançon.
On sait aussi qu'après que le MNLA ait été chassé de Kidal par l'armée malienne, après le passage du PM, c'est l'homme de main de Iyad qui a conduit les troupes qui sont venues les dégager. Donc tout ça, on le sait. Les alliés qui sont sur le terrain militairement le savent. Et si on nous amène à négocier avec des gens qui ne sont pas véritablement responsables de quelque chose, c'est pour avoir un accord qui ne tiendra en rien. Et après, les attaques qui vont se faire ne seront pas revendiquées par le MNLA qui ne peut pas les revendiquer parce qu'il a un accord, mais par un autre groupe terroriste qui n'a pas été à la table de négociation, donc qui n'est en rien engagé par le processus de dialogue. Et un dernier élément que je voudrais dire par rapport aux tensions dont on a parlé tout à l'heure. Les mouvements, les groupes, les Imrad et les Iforas, il y a un conflit entre ces deux communautés qui est très profond. Je pense que si on veut vraiment avoir une stabilité, si on veut permettre à une certaine catégorie de réfugiés de revenir dans le pays, il faudrait songer à engager un processus de discussion entre ces communautés pour trouver une paix et une stabilité réelle. Mmh. Mais naturellement, ce n'est possible qu'après un accord.
Mmh. Alors, Ousmane Cornio, vous venez d'entendre, Mamadou Diouara a mis la main sur une plaie aujourd'hui. Cette situation de Yad Agali, le chef de groupe islamiste Ansardine, aujourd'hui, est-ce qu'une possibilité d'intégration d'Yad Agali est possible au Mali?
Bon, c'est vrai que moi-même, dans mes précédentes interventions, pas plus que le samedi, j'animais une conférence. Moi, je l'ai bien dit que, en matière de gestion de conflits, pour qu'une solution trouvée à un conflit soit durable, il y a trois conditions. Première condition, il faut que les manifestations soient éteintes d'abord. Deuxième, il faut que les causes profondes soit établi. Et troisièmement, il faut que tous les acteurs intervenant dans le conflit soient concernés par la solution.
Absolument.
Et qui fait que si jamais on prend une solution à Alger et qu'il y a une partie, sachant bien que Yad Agali et ses hommes sont vrais tenants de la situation et qui ne sont pas impliqués dans la négociation, la solution, ce serait une solution éphémère.
Alors aujourd'hui, la situation de Yad Agali est connue. La communauté internationale, avec les États-Unis en tête, ont classé cette organisation dont dirige Yad Agali, organisation terroriste. Est-ce qu'avec ce statut, Yad Agali peut intégrer quelques processus que ce soit?
Mais un terroriste que nous avons pris et qu'on a emprisonné à la grande prison centrale ici, on l'a libéré.
Et si vous permettez une question, Yad Agali, terroriste soit-il, est-il irrécupérable puisque c'est un Malien? Secondo, Ansardine a-t-il déjà organisé un attentat terroriste sur le territoire malien? Sur un autre territoire, sur n'importe quel territoire d'ailleurs? À ma connaissance, non. Il y a eu les combats et Yad a dit nous sommes du Mali. Nous savons que c'est Yad qui a fait prendre Kidal, Gao et Tombouctou. C'est lui qui a fait occuper le terrain par le MNLA, s'il l'a déjà occupé une fois d'ailleurs. Et nous savons que c'est le jour où on l'a chassé du terrain que la France a permis au MNLA d'être à Kidal parce qu'elle a bloqué l'armée malienne aux portes de Kidal. Donc, on sait que le combat de Yad n'est autre chose que parce que le MNLA avait refusé de lui donner le commandement militaire et il a refusé de perdre le contrôle sur le territoire qu'il a toujours dirigé.
Alors,
c'est un séparatiste qu'il faut récupérer. C'est un Malien qu'il faut récupérer. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il faut le mettre face à la justice. Les crimes qui sont de son ressort, comme ceux qui sont du ressort des autres acteurs, doivent être traités par la justice traditionnelle ou traditionnelle.
Merci,
il faut que ce soit fait.
Merci, Mamadou Diouara.
Oui,
Ousmane.
C'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'est quand je dis que tous les acteurs doivent être concernés par la solution, ne veut pas dire que c'est un même type de solution pour chaque acteur. Il peut être, par exemple, pour certains acteurs, c'est la négociation. Mais pour d'autres acteurs, ça peut être même, il faut la force. Si pour les terroristes, si après avoir négocié avec les groupes armés à Alger, et que ceux-ci soient prêts à déposer les armes, que la communauté soit prête à revenir, et qu'on sente que Yad, derrière lui, a j'appelle les terroristes, des terroristes qui ne veulent pas qu'il y ait la paix et qui minent cette paix-là, ben écoutez, que la communauté internationale soit tenue est responsable de cette situation et qu'on trouve une solution. Ou on négocie ou on tape.
Sauf que la communauté internationale n'a jamais tapé et ne tapera jamais.
Alors nous avons au téléphone Ibrahim Talba de Cherche for Common Growth. Nous allons vous donner la parole tout à l'heure, Mamadou Diouara. Vous êtes très engagé dans cette émission. Alors Ibrahim Talba, vous êtes de Cherche for Common Growth. Dites-nous aujourd'hui quel est le programme de retour qui est mis en œuvre pour le retour des réfugiés du Niger, les réfugiés maliens du Niger vers leur pays d'origine qu'est le Mali.
Ok, merci bien monsieur. Par rapport au programme du retour, comme je l'avais dit tantôt dans mes précédentes interventions, le programme du retour des réfugiés est toujours conditionné par la stabilité du Nord. Tant que il n'y aura pas une stabilité durable au Nord, il serait très difficile à ce que ces réfugiés-là puissent retourner dans le milieu d'origine. C'est vrai, il y a quelques-uns d'entre eux qui sont déjà de retour au Mali. Par exemple, les statistiques de gestion sur les 53 339 réfugiés maliens qui sont installés dans les zones d'accueil 30 septembre 2014, il y a 7080 réfugiés qui sont retournés.
7000.
Et il y a des chiffres où des réfugiés qui partent et qui reviennent souvent sans le contrôle du ACR. Mais les statistiques que nous avons aujourd'hui à notre position, c'est les 7080 qui sont retournés. Mmh. Et tout ce qui est sûr, comme je l'avais dit tantôt, le retour, le programme de retour dépend de la situation sécuritaire dans le nord du Mali. Et cette situation, à ma connaissance, n'est pas encore rétablie. Il y a des problèmes intercommunautaires, il y a encore des instruments de mouvement armé et les accords ne sont pas signés entre les différentes parties en conflit. Et comme l'a dit un intervenant, M. Diawara, il faudra que les parties puissent s'accorder sur les causes profondes de ce conflit. Pour bien la gérer, il faudra que toutes les parties prenantes à ce conflit puissent participer au débat. Parce que l'accord d'alliés ne peut être entendu et durable que lorsque tous les parties puissent participer. Et même les réfugiés qui sont ailleurs, au Niger, au Burkina Faso, dans les autres pays d'accueil. Il faudrait que les représentants des réfugiés puissent participer. Mm-hmm. On ne peut pas signer un accord juste avec les parties qui sont en conflit, alors que une bonne partie de ces populations qui sont touchées par ce conflit sont quelque part dans les pays voisins du Mali. Je pense qu'il faudra prendre en compte aussi les représentants de ces réfugiés-là et les faire participer à la signature de cet accord. Sinon, il serait très difficile à ce que cet accord
puisse tenir. Merci beaucoup Ibrahim Talba. Je rappelle que vous êtes de Chef for Commoncraft, une ONG qui est beaucoup investie dans les conditions, l'amélioration des conditions des réfugiés maliens aujourd'hui installés au Niger. Merci beaucoup Monsieur Talba. Alors Ousmane Cornio, une dernière question avec vous. Est-ce que après les libérations extrajudiciaires dénoncées par les organisations de défense des droits de l'homme, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et tout son gouvernement peuvent aujourd'hui s'engager dans la réintégration des présumés terroristes ou bien des terroristes que nous avons identifiés ici, notamment Yadar Ali?
Bon, je ne pense pas que ce soit les terroristes qui sont à intégrer. Moi, personnellement, je suis même contre même l'intégration des déserteurs et l'intégration des groupes armés. Je crois qu'il ne faut pas qu'on encourage une prime à la révolte, une prime à l'insurrection, une prime à tous ceux qui prennent les armes. Je ne suis pas... J'ai fait tellement d'études sur la prolifération des armes et sur la sécurité du Nord et trouver la responsabilité de ces gens qui ont été intégrés avant et qui ont déserté avec les armes, qui ont déserté en créant des situations vraiment pas confortables au sein des communautés, qui fait que moi, je pense qu'il faut chercher à gérer le sort. J'utilise bien les termes, après la négociation, après la signature, comment gérer le sort des combattants, des groupes rebelles? Le mot intégration, je crois qu'il faut vraiment l'exclure même de l'accord.
Du vocabulaire.
Du vocabulaire. C'est gérer leur sort.
Je partage cet avis. Voilà. Je pense aussi ce n'est pas une bonne chose de faire une prime à la révolte. Je suis totalement d'accord. Si on peut trouver une autre solution, c'est tant mieux. Et j'aurais même préféré que pour ceux qui vont dans l'armée, qu'il y ait un recrutement en bonne et due forme plutôt qu'une intégration. Mais notre État n'a pas montré jusqu'à présent une position franche, claire et responsable. Nous attendons que cela vienne.
Nous rappelons que nous avons fait appel au gouvernement, aux représentants de l'État, mais ils nous ont décliné l'offre de participer à cette émission. Les groupes rebelles, les groupes armés également ont été conviés à cette émission et malheureusement, nous n'avons pas eu de suite favorable à cette demande. Je rappelle que nous réfléchissions aujourd'hui sur la situation des populations civiles dans le nord du Mali au milieu des affrontements que nous avons évoqués dans cette émission. Affrontements aujourd'hui très inquiétantes, situation très inquiétante à Tabankort où le MNLA et le Gatia s'affrontent dans cette localité. Nous avons vu cette situation avec deux, trois invités. Ousmane Kornio, expert des sécurités dans la zone du Sahel. Mamadou Djouara, qui est sociologue, également secrétaire général du mouvement Sauvons le Mali. Nous étions par téléphone également avec Ibrahim Talba de l'ONG Share for Common Ground qui milite, qui défend la situation aujourd'hui, améliore la situation des réfugiés maliens installés au Niger. Je suis Famoussa Sidibé. Ousmane Diadié Touré et Rokia Danyogo ont réalisé cette émission. Gagné Kanté était à la technique. Salim Djouara était à la régie vidéo. Nous vous disons à très bientôt, mercredi prochain, si tout va bien, pour une autre émission du Grand Dialogue.
Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigika Foba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.